Fréquence Mistral et le Festival Alimentaire. Une émission spéciale autour des enjeux de l'alimentation durable et solidaire.
Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans cette émission spéciale sur le Festival Alimentaire et je suis en très bonne compagnie avec moi, Mélanie Olivier. Mélanie, tu es chargée d'éducation à la boutique Échangeons le Monde. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Et il y a avec moi aussi Camille Danel. Camille, tu es chargée de communication à la Biocoop Le Grenier à Gap. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, on est ensemble aujourd'hui, je le disais, pour parler du Festival Alimentaire qui commence le 15 octobre prochain et qui durera jusqu'au 30 novembre. Le Festival Alimentaire s'écrit avec Terre comme notre planète, la Terre, T-E. En quelques mots, c'est un événement qui se concentre sur les enjeux de l'alimentation durable et solidaire et qui s'articule pour ça autour de la diffusion de documentaires sur ces sujets-là. On rentrera dans les détails ensemble juste après. Mais pour commencer, Mélanie, je le disais, tu es chargée d'éducation à Échangeons le Monde, rue Jean-Aymar à Gap. J'aurais envie de définir Échangeons le Monde comme une boutique associative alternative, entre guillemets, qui propose des produits durables et solidaires. Mais est-ce que toi, tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce que c'est Échangeons le Monde ?
Oui, alors le mot qui me vient ici tout de suite là, c'est un peu un microcosme parce que donc c'est une association qui regroupe au moins une vingtaine de bénévoles assez réguliers et qui sont en connexion avec plusieurs autres associations sur Gap. Donc c'est pour ça que ça fait le lien avec d'autres microcosmes sur Gap. Et donc, dont le but, comme tu disais, c'est de promouvoir le commerce équitable par la vente. Donc on a une boutique rue Jean-Aymar. L'éducation, donc c'est entre autres une de mes missions avec une partie des bénévoles de faire des interventions dans les écoles, mais on en reparlera peut-être un peu plus après. Et puis le plaidoyer, donc via le Festival Alimentaire et d'autres outils, enfin, on essaye de faire bouger un peu les lignes au niveau des décisions politiques locales ou en tout cas de faire un peu plus connaître le commerce équitable et connaître cette solution un peu alternative au modèle économique dominant, quoi.
Et Camille, toi, de ton côté, je le disais, tu es chargée de communication à la Biocoop du Grenier. Bon, je pense que les auditrices et auditeurs ont un peu une idée de ce que c'est que la Biocoop, mais quand même, est-ce que tu aurais envie de m'en dire quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors, Biocoop Le Grenier, c'est une coopérative qui existe depuis 1987 sur le Gapençais. Il y a deux magasins à Gap et on est une SCOP, donc c'est une coopérative de salariés. Donc l'entreprise appartient pour l'instant à 21 salariés associés. On est 38 salariés actuellement. On espère qu'il y en aura au fur et à mesure un peu plus qui s'investissent pour prendre les grandes décisions de la COP. Donc nos magasins, ce sont des magasins 100% bio et on donne la priorité aux produits locaux. Donc on travaille avec plus de 130 producteurs locaux donc, qui viennent des Hautes-Alpes, mais également de la Drôme, de l'Isère, des Alpes de Haute-Provence, des départements limitrophes à 150 km autour des Hautes-Alpes. On est en partenariat avec Échangeons le Monde, puisque une de nos ambitions, c'est de développer les produits issus du commerce équitable. Et c'est pour ça qu'on vend aussi des produits d'artisans du monde dans nos boutiques et qu'on crée des passerelles avec Échangeons le Monde lors de plusieurs événements et notamment le Festival Alimentaire.
Je le disais, donc on est ensemble pour parler du Festival Alimentaire, encore une fois, et qui va commencer très bientôt. Camille, l'un des documentaires sera diffusé à la Biocoop. On le détaillera quand on parlera de la programmation. Mais avant d'abord, j'aimerais me tourner vers toi, Mélanie. C'est toi qui coordonne le festival dans les Hautes-Alpes. Alors, est-ce que tu pourrais essayer de nous détailler, je l'ai présenté un peu tout à l'heure, mais essayer de nous détailler un peu plus, qu'est-ce que c'est le Festival Alimentaire ?
Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est un festival de films documentaires autour de l'alimentation et de l'agriculture qui a pour but de mettre en évidence les déséquilibres du système mondial sur ces thématiques-là et de montrer qu'à toutes les échelles, à tous les niveaux, on peut avoir un pouvoir d'action, qu'on peut changer les choses à notre échelle. Et je pense une des particularités de ce festival aussi, c'est de montrer les interdépendances entre Nord et Sud au niveau des systèmes alimentaires, que c'est pas parce que l'alimentation est produite à l'autre bout de la planète qu'elle nous concerne pas, et c'est pas parce que notre alimentation est produite localement qu'elle est pas dépendante d'autres bouts de la planète. Donc c'est un festival qui a été co-créé entre plusieurs pays d'Europe et d'Afrique de l'Ouest dans ce but-là.
Et justement, oui, je voulais rebondir là-dessus. C'est un festival qui existe. Il a été créé en 2007 en France, mais maintenant, il existe sur plusieurs, dans plusieurs pays et même sur plusieurs continents.
Oui, voilà. Je ne sais pas depuis combien d'années exactement, mais il y a des projections, même en Amérique latine maintenant, mais ça a quand même été créé par des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Europe. Donc, il y a quand même plus de projections en Afrique de l'Ouest et en Europe.
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a parfois des intervenants qui viennent pendant les projections, des activités qui sont proposées aussi autour des projections. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la volonté de ce festival, ce serait de sensibiliser ?
Oui, c'est ça. Et je pense, au-delà de la sensibilisation, c'est vraiment aussi permettre qu'il y ait des lieux qui soient ouverts à un certain moment de l'année pour pouvoir discuter et permettre les échanges entre les gens un peu partout en France et un peu partout dans le monde autour de ces thématiques, mais ouvrir un espace d'échange, quoi.
Et du coup, Mélanie, je le disais tout à l'heure, c'est toi, avec Échange dans le monde, qui coordonne la diffusion du festival dans les Hautes-Alpes, dans le 05. Comment est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire, coordonner un festival dans le département ?
La première étape de l'année, c'est qu'on fait partie, en tant qu'association, du comité de sélection des films. Voilà, on va choisir les films parmi une présélection qui a été faite au niveau national par le Comité français pour la solidarité internationale. Et puis après, c'est commencer à organiser des réunions dès l'été et puis un petit peu dès le début début septembre pour mettre en relation les différents organisateurs et mettre en avant les problématiques qui sont soulevées localement, que ce soit en termes de communication, en termes d'accès au public, d'accès aux salles, d'intervenants, enfin voilà. Et après, c'est un peu tout l'aspect administratif du festival aussi qui est là pour soutenir le festival.
Tu viens de le dire, vous participez au choix des films qui seront diffusés. Comment est-ce qu'ils sont choisis, justement, ces films ?
Donc il y a vraiment cette ambition qu'on puisse faire le lien, même si c'est un film qui a été fait localement en France, par exemple, qu'on puisse le faire le lien avec des problématiques internationales, quel que soit le lieu de construction du film. Il y a un aspect artistique, comme tu le disais tout à l'heure, de cohérence du film, d'accessibilité au public. Voilà ce qui me vient en tête, mais il doit y avoir une quinzaine de critères sur lesquels on travaille et où on donne notre avis sur est-ce que ça remplit ou pas ce critère.
Est-ce qu'au niveau local, il y a un choix qui se fait sur la pertinence sur le territoire de la diffusion de tel ou tel film ?
Alors, oui, cette sélection dont je parlais, c'est au niveau national et même, en fait, international, parce que c'est la sélection qui est faite pour l'année, pour tout le festival alimentaire. C'est au niveau départemental, c'est plus que chaque organisateur de séance choisit en fonction de ses préférences et de son angle de vue. En fait, il y a des organisations plutôt qui sont en lien avec les circuits courts ou plutôt en lien avec la solidarité internationale ou avec l'accès aux fonciers agricoles. Donc c'est en fonction de quel est l'organisateur, il va choisir plus ou moins certains films, quoi.
Comment est-ce que ça se fait quand on coordonne du coup le festival ? Comment est-ce que le contact se fait pour organiser une diffusion et tout ce qui peut arriver autour de la diffusion ? C'est les organismes qui diffusent qui viennent te voir et te disent « nous, ça nous intéresse de diffuser » ou est-ce que c'est toi qui les contactes ? Est-ce que les deux cas arrivent ?
Oui, il y a les deux cas qui arrivent. Il y a des organisateurs qui sont présents sur le festival depuis plusieurs années, du coup, qui ont l'habitude. Et puis nous, chaque année, on essaie de contacter un peu des associations qui peuvent être intéressées.
Et justement, je voudrais prendre un peu le temps de détailler la programmation. Il se passe beaucoup de choses dans tout le département. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, Mélanie, tu m'avais parlé d'une trentaine de diffusions au total dans le département.
On a une trentaine de projections tout public. Et puis après, il y a les projections scolaires en plus. Mais pour les projections tout public, c'est une trentaine, oui. Et du coup, il y en a dans le Briançonnais, comme disait Camille, dans l'Embrunet, dans le Guillestroy-Quéra, dans le Gapensé et puis dans le Buèche. La seule zone qui manque un peu, c'est le Champsaur.
Champsaur-Val-Gaudemar, oui. Ouais. Si vous venez du Champsaur-Val-Gaudemar et que vous êtes investi dans une asso locale et que vous avez envie d'organiser une soirée convivial sur un thème hyper intéressant, sur l'alimentation, l'agriculture, n'hésitez pas à contacter Échangeons le Monde.
Festival alimentaire, écrivez Terre, T-E-2-R-E, comme notre planète. Du 15 octobre au 30 novembre, partout en France. Zoom sur Gap avec Fréquence Mistral.
Alors du coup, je propose qu'on s'attarde un petit peu sur ce qui va se passer à Gap. Qu'est-ce qu'on pourrait voir par rapport au festival alimentaire, Mélanie ?
Et ben, finalement, quasiment tous les films de la sélection vont être proposés à Gap cette année. Alors il y a une première projection qui n'est pas tout à fait certaine, donc en option, disons. Dans la rue Jean Aymard, ce serait avec le film Les mots de notre alimentation, qui est un film autour de comment le développement de l'agriculture industrielle en Amérique latine, vu par le biais de deux artistes, une dessinatrice de bande dessinée et un rappeur, qui sont allés là-bas faire des investigations. Et à la fin, donc c'est des petits courts-métrages, et à la fin, on voit leurs œuvres, ou on entend leurs œuvres en lien avec ce. Ces problématiques-là, et c'est un film qui est assez touchant. La deuxième date, ou première en fonction de... Voilà, ce serait le 1er novembre au Bar Le Gorille, avec le film La Dernière Graine, qui est un très beau film autour de des semences paysannes en Afrique, en fait, et comment ces semences sont encore très diversifiées et très utilisées, et en même temps, comment l'industrie des semences a tendance à vouloir accaparer le secteur. Et un peu, qu'est-ce qu'on a à apprendre, nous, en Europe, aussi, de ce qui est encore conservé en Afrique. Enfin, voilà, c'est un très beau film qui sera diffusé au Bar Le Gorille le 1er novembre. Ensuite, le 8 novembre au Club, à 20h30, on va diffuser le film Jusqu'à la fin du monde, qui est un film qui parle d'aquaculture et un peu des revers de l'aquaculture dont on n'a pas forcément conscience. En tout cas, moi, c'était un peu une découverte pour moi, autour de l'alimentation, parce que la plupart des fermes aquacoles, c'est des fermes de poissons carnivores, donc on les nourrit avec des farines de poissons qui viennent de bateaux-usines qui ont tendance à avoir des conséquences de surpêche un peu partout dans le monde, et donc avec des conséquences environnementales et sociales, et ça montre... de façon assez globale, en fait, l'envers du décor de l'aquaculture.
Et donc, la date suivante, il me semble que c'est la nouvelle librairie, c'est Traînée de poudre.
Oui, alors, c'est un film qui nous concerne de près de loin pour toutes les régions d'élevage en France, parce que, du coup, il traite de la thématique de la surproduction laitière en Europe et comment cette production de lait est transformée en poudre de lait et envoyée, vendue en Afrique de l'Ouest à des prix défiant toute concurrence et du coup qui impacte fortement la filière lait en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un beau film sur les interdépendances, justement, dont on parlait tout à l'heure, de mode de production.
Et ensuite, la date qui suit, c'est deux jours plus tard, c'est le 14 novembre, à la Biocop Le Grenier. Camille, c'est le film Bienveillance paysanne qui sera diffusé. Camille, est-ce que tu aurais envie de nous le présenter en quelques mots ?
C'est un film qui parle de l'élevage. D'abord, les méfaits de l'élevage, notamment tout ce qu'on connaît sur la pollution, la déforestation, aussi l'impact de l'élevage sur le réchauffement climatique. Et après, les solutions, les alternatives qu'ont des éleveurs, justement, pour relever ces défis et avoir un autre élevage qui est possible, moins intensif, plus interconnecté. C'est un film très optimiste là-dessus et qui pose la question, justement, de l'élevage en tant que tel. Quel sera l'avenir de l'élevage en France, en tout cas?
Et donc ça, on pourra en rediscuter ensemble tout à l'heure de la diffusion vraiment du film Bienveillance paysanne. Et puis juste après, du coup, cette diffusion-là, il y aura le 21 novembre à la Cinémathèque de Montagne le film Demain la vallée, qui, je crois, Mélanie, sera en présence d'une intervenante internationale ivoirienne qui est spécialisée entre autres en agroécologie et en droits des femmes. Et Demain la vallée, est-ce que, Mélanie, tu veux bien essayer de me détailler un petit peu ce dont ça parle ?
Demain la vallée, c'est un film qui a été filmé dans une vallée d'Ariège et où les habitants, les citoyens, les agriculteurs, un peu tous les acteurs locaux, en fait, se sont regroupés pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'ils voulaient comme agriculture demain dans cette vallée, pour en même temps relocaliser l'alimentation, en même temps répartir les terres de façon... avec une pluralité de production sur cette vallée. Parce que du coup, en montagne, c'est des régions plutôt d'élevage. Et du coup, comment laisser un peu plus de place au maraîchage dans cette vallée-là. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce film, c'est vraiment comment on construit une démarche citoyenne Et oui, comment des acteurs locaux qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue peuvent arriver à discuter ensemble et créer un espèce de programme commun pour construire leur vallée de demain.
Et il me semble qu'il reste deux films qu'on n'a pas encore présentés, qui ne seront pas forcément diffusés à Gap, mais qui seront diffusés à d'autres endroits dans le 05, dans les Hautes-Alpes. Je pense notamment à Razzia sur l'Atlantique, par exemple. Et donc, juste pour dire quelques mots sur Razzia sur l'Atlantique, c'est aussi un film qui parle de pêche.
C'est un film qui est assez complémentaire avec le film Jusqu'au bout du monde, qui traite de l'aquaculture et des impacts sociaux de cette aquaculture. Là, il prend l'optique de la pêche, mais il traite aussi des impacts sociaux et environnementaux de cette pêche en traitant de la pêche artisanale et industrielle sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Et un peu comment les gouvernements ont essayé de prendre en compte cette question. Et en même temps, comment c'est compliqué de gérer cette pêche qui est internationale, en fait, sur les côtes d'Afrique de l'Ouest.
Rappelle-moi, Mélanie, où est-ce qu'il sera diffusé, celui-ci ?
Alors, il va être diffusé aux Ors et à... il ne faut pas que je me trompe. À Aiguillon. Bon, dans tous les cas, les auditeurs peuvent aller retrouver les projections sur le site alimentaire.org.
Et puis, je pense à L'or bleu, l'or vert, les larmes d'une vallée, qui parle de la vallée de Petorca, au Chili, dans laquelle est produit l'avocat. Et à cause de la production d'avocat, en fait, cette vallée est devenue très aride et ça a des conséquences sociales énormes. Il va être diffusé à Gap en dehors du festival alimentaire, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, on fait durer un peu le plaisir. Et donc, ce sera diffusé le 3 décembre à la Cinémathèque de Montagne avec une intervenante, une journaliste qui est spécialisée du lien entre eau et agriculture. Donc, totalement dans la thématique. Et en fait... elle pourra nous aider à faire le lien entre cette problématique au Chili et nos problématiques locales, comment on en arrive à des problèmes de privatisation aussi en France. Voilà. Et du coup, c'était vraiment ça l'objet du film, c'est de montrer que via cette privatisation de l'eau, en fait, les grandes entreprises, et entre autres de production d'avocats, drainent toute l'eau et comment les petits producteurs locaux ont du mal à faire de l'agriculture vivrière, tout simplement. Chez eux, quoi.
Et donc, dans cette programmation, il y a également un autre film qu'on n'a pas encore évoqué qui s'appelle La théorie du boxeur, Mélanie.
Oui, c'est un film qui a été déjà un petit peu diffusé dans les Hautes-Alpes et alentours, entre autres peut-être parce qu'il a été filmé dans la Drôme. C'est un film, en fait, La théorie du boxeur, c'est une théorie qui part du principe que la végétation, elle va recevoir un premier impact du coup de chaud, elle va y résister. Et puis un deuxième et un troisième, elle va avoir un peu plus de mal à y résister. Et plus les coups s'enchaînent et plus c'est compliqué d'y résister. Donc c'est un peu la base du film. Enfin, du début du film, et après, c'est de voir comment les agriculteurs locaux s'adaptent, en fait, comment ils gèrent la quantité d'eau, comment ils s'adaptent au changement climatique dans nos régions. Et donc, c'est le premier film qui va être diffusé sur le Festival alimentaire dans les Hautes-Alpes, le 15 octobre, donc le premier jour du festival, à Embrun, au cinéma Le Roc.
Donc ce sera le film d'ouverture du festival. Il y a une autre date qui va arriver avant les premières dates gapensaises, je crois que c'est à Briançon.
Oui, ça va être à la résidence Domitis. Donc comme disait Camille tout à l'heure, à Briançon, ils ont à cœur d'ouvrir à différents publics et entre autres aux seniors. Donc là, la résidence Domitis accueille le film Bienveillance paysanne dont parlait Camille aussi tout à l'heure sur l'élevage et la polyculture élevage en France.
Fréquence Mistral et le Festival Alimentaire, une émission spéciale autour des enjeux de l'alimentation durable et solidaire.
Pour conclure sur la programmation, je ne peux qu'inviter les auditeurs et auditrices à se rendre sur le site alimentaire.org pour voir ce qui se passera près de chez eux. J'avais quand même envie de rebondir, Mélanie et Camille, sur le fait qu'il y a des films là, dont on vient de parler, notamment par exemple celui qu'on vient d'évoquer, L'or bleu, l'or vert, qui parle de production d'avocats. Pourtant, on ne produit pas d'avocats ici dans les Hautes-Alpes, on ne fait pas de pêche, on n'est pas sur un littoral toujours dans les Hautes-Alpes. Pourquoi, en fait, est-ce que c'est intéressant de diffuser ces films-là malgré tout, même si nous, on n'est pas producteurs ici localement ?
L'avocat, par exemple, c'est un des produits qui est en vogue depuis plusieurs années. C'est un super fruit qu'on consomme de plus en plus pour plein de vertus, parce qu'il est très riche en oméga, il est très gras, donc très bon pour la santé. C'est à la mode aussi dans plein de recettes, et c'est à la mode partout en Europe. C'est une bonne alternative pour les personnes qui sont véganes, par exemple, s'ils veulent éviter des matières grasses animales. Et on se rend compte que, vu qu'il est majoritairement produit en Amérique latine, que ça a un impact social et environnemental fort, même si ici, c'est de plus en plus consommé. L'eau, ce n'est pas un bien qui est éternel, donc peut-être qu'un jour aussi, les grandes productions industrielles d'avocats en Amérique latine vont avoir une production qui va diminuer. C'est une actualité qui est très intéressante, et comme l'a dit Mélanie, tout est interconnecté. C'est vrai que dans les Hautes-Alpes, on n'a pas une grosse culture du poisson, on ne consomme pas beaucoup de poisson, mais on en consomme quand même. Et le poisson qui est vendu en grande surface, eh bien, c'est du poisson qui vient surtout de la surpêche, parce que c'est des gros chalutiers qui ont été subventionnés, c'est ce qui est raconté aussi dans ces films-là, qui ont été subventionnés par nos impôts, par l'Europe, et qui ont un impact social énorme. Et qui après se retrouvent, ça on le voit dans le film Razzia sur l'Atlantique, qui ont après un impact fort chez nous sur les flux migratoires. Et nous, dans les Hautes-Alpes, on est quand même un des départements français, un des plus concernés sur ce sujet. Donc en fait, tout est quand même interconnecté. C'est des sujets qui peuvent nous paraître loin parce que les problématiques sont à l'autre bout du monde. Mais en fait, on est hyper concernés, nous, à la fois dans notre consommation personnelle, mais aussi à la fois de notre pouvoir en tant que citoyen, parce que tout dépend pas que de ce qu'on met dans notre assiette, mais aussi des pouvoirs publics. Donc à nous de voir comment on peut faire changer les choses. Et le savoir, c'est le pouvoir. Du coup, c'est ça aussi l'enjeu de ce festival, de sensibiliser et de mieux comprendre les enjeux de l'alimentation, que ça va plus loin que juste ce qui se passe ici dans notre département.
Eh bien, sur ces très belles paroles, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, mesdames. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale.
Passer ma vie sur les routes, nomade tel un vagabond. Passer ma vie goutte après goutte, goûter tout ce qu'il y a de bon. Passer ma vie à raconter des histoires, chanter des chansons. Fuir ce monde qui est illusoire, ce monde qui me fait la leçon. Moi, poète inutile, fainéant, improductif et lâche. Moi, la cigale qui chante l'été quand les fourmis se tuent à la tâche. Passer ma vie à crier sur les toits que l'homme n'est pas fait pour ça. Passer ma vie tout près de toi parce que sans toi je ne suis pas. Ils ont bâti un monde de blasés qui pensent que tout est cuit, qui pensent que plus rien ne peut changer nos rêves, nos vies, nos espoirs écrasés. Enchaînés à leur chaîne de pensée, esclaves de leur réalité. Passer ma vie à essayer de me persuader qu'un jour peut-être les choses changeront d'elles-mêmes. Passer ma vie à vouloir faire avec. Passer ma vie à accepter tout ce que je ne peux pas changer. Passer ma vie à vouloir changer tout ce que je ne peux pas accepter. Passer ma vie à te regarder dans le blanc des yeux. Passer ma vie à espérer qu'on sera toute la vie tous les deux. Passer ma vie tant bien que mal à vouloir vivre le bonheur. Quand bien même ce monde nous inonde de ces immondices horreurs. Un étranger, c'est tout ce que je suis. Sur terre je n'ai pas de chez moi. Chez vous c'est bien trop petit, trop à l'étroit dans votre paradis. Mon cœur et mon âme s'évadent, s'envolent, rêvent d'une autre vie. Passer ma vie, 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 passer ma vie à oublier qu'un jour viendra la nuit qui me dira que mon heure est passée, que je ne pourrai plus désormais passer ma vie tout près de toi à me dire que tu es si belle. Passer mes nuits sous ce toit où nos songes se ramassent à la pelle. Passer ma vie à crier à l'injustice et au mensonge. Passer ma vie à passer
passé pour un fou, un parano, un étrange. Passé ma vie à m'indigner pour tout et pour n'importe quoi. Passé ma vie à radoter les mêmes mots pensés mille fois. Passé ma vie à regarder passer ce monde fier, futile, furieux, folle caravane de l'insensé. Passé ma vie, penser, dépenser cette vie dont j'aimerais être heureux le jour où elle sera dépassée. Passé ma vie.
C'était HK et les Saltimbanques avec leur titre « Passer ma vie ». Nous sommes donc de retour sur Fréquence Mistral avec en ma compagnie Mélanie Olivier, chargée d'éducation à Échangeons le Monde à Gap, et également Camille Danel, chargée de communication à la Biocop Le Grenier à Gap toujours. Nous sommes donc ensemble pour parler du festival alimentaire, écrivez Terre, T-E-2-R-E. Camille, on le disait tout à l'heure, la diffusion du film Bienveillance paysanne se fera à la Biocop le jeudi 14 novembre. Comment est-ce que s'est passé le choix de ce film ? Pourquoi est-ce que tu as choisi de le diffuser à la Biocop ? Comment ça s'est passé pour toi ?
Déjà, ça fait depuis 2016 qu'on organise des projections des films du Festival alimentaire en partenariat avec Échangeons le Monde. Du coup, on a déjà diffusé... pas mal de films sur les enjeux. Et là, cette année, la question de l'élevage, ça a fait sens pour nous, puisqu'on est le département où il y a le plus d'élevage dans la région PACA. Mais nous, c'est un élevage qui est particulier comparé à d'autres régions, parce que c'est quand même un élevage qui est très extensif. Après, on est un département de montagne, donc c'est vrai qu'historiquement, ça a toujours été ça, le contexte comparé à la Bretagne ou à d'autres régions de France qui ont un élevage beaucoup plus intensif. C'est intéressant de voir qu'aussi, il y a même encore aujourd'hui, l'élevage intensif, on en entend beaucoup parler, comme quoi c'est l'ennemi numéro un, etc., sur le changement climatique, et de voir qu'il y a des solutions qui existent, et localement aussi, de voir que la polyculture, c'était quand même le principe de base en agriculture, et à voir que justement, c'est une vraie solution d'avenir. Et on aimerait, pour faire cette lors de ce documentaire, inviter un de nos producteurs locaux pour qu'il nous raconte son expérience là-dessus, et voir aussi si c'est pérenne, si on peut en vivre, et comment.
Oui, c'est qu'en fait... Donc des chiffres de l'ADEME qui datent de 2012, donc qui datent un peu, mais c'est toujours d'actualité a priori. Il y aurait quasiment un quart de notre production de gaz à effet de serre qui est due à l'alimentation. Et en fait, peut-être la conscience qu'on n'a pas, c'est que cette part de production de gaz à effet de serre due à l'alimentation, on a l'impression que c'est essentiellement dû au transport des aliments de chez nous, enfin de la production jusqu'à chez nous. Et en fait, cette part-là, même si, en prenant en compte toutes les productions agricoles qu'on achète juste à côté de chez nous ou qu'on achète à l'autre bout du monde, l'ensemble de ces productions de gaz à effet de serre, il n'y en a que 13% qui sont dus au transport et 67% qui sont dus aux pratiques agricoles. Parce que, en fait, quand on fait de la monoculture, quand on laboure énormément, enfin, il y a tout un tas de pratiques agricoles qui font qu'on a tendance à... La matière organique qui est stockée dans le sol, en fait, elle a tendance à être minéralisée plus rapidement que l'évolution naturelle. Et du coup, on réinjecte dans l'atmosphère du carbone qui était dans le sol. Et donc, le lien avec le film Bienveillance paysanne, c'est vraiment se dire que c'est pas forcément l'élevage en tant que tel qu'il faut bannir. C'est plus réfléchir à quelles sont les pratiques vertueuses. Moi, mon opinion, en tout cas, c'est de se dire que les pratiques vertueuses, elles peuvent être autant vertueuses pour le bien-être animal, pour l'environnement et pour les paysans qui produisent, quoi. C'est pas des choses qui sont contradictoires.
Et Camille, justement, toi, avec la Biocop, tu es en relation avec des producteurs, tu l'évoquais tout à l'heure. Comment est-ce qu'eux, ils voient un peu ces enjeux-là qui sont évoqués dans Bienveillance paysanne et dans d'autres films du festival ? Comment est-ce que ça se passe pour eux ? Est-ce qu'ils essayent de tendre vers ça ? Est-ce qu'ils sont déjà dedans ?
Il y a certains producteurs qui avant étaient en conventionnel, donc en agriculture conventionnelle, et qui sont passés en bio. Il y en a certains, c'est déjà par rapport à eux leur situation économique. Ça, on le voit dans d'autres films. Donc il y en a qui passent en bio, notamment pour ça, et d'autres pour le bien-être animal, qui ont voulu développer d'autres pratiques, d'autres façons de faire, justement pour avoir une meilleure vie pour leurs bêtes et créer plus de sens dans leur métier. Petit à petit, se développe aussi cette conscience environnementale. Et après, il y en a qui sont vraiment militants et qui ont à cœur de changer les pratiques. Par exemple, une vache, s'il fait plus de 20 degrés, elle n'est pas bien. Leur but, c'est d'essayer d'avoir un impact le plus neutre possible pour justement avoir des animaux qui se sentent bien et continuer surtout leur métier le plus longtemps possible.
Il y a parfois aussi l'impression que certains agriculteurs ont des difficultés à tendre vers ces nouveaux modèles.
Les problématiques, elles sont majoritairement financières, parce que déjà les aides de l'État tardent à arriver. Les aides à la conversion, parce que passer en bio, ça dure quand même 3 ans. Pendant 3 ans, on ne peut pas vendre sa production au prix du bio. On est obligé de le vendre au prix du conventionnel, alors que ça nécessite beaucoup de changements dans l'organisation. Sauf que les producteurs derrière, ils n'ont pas un retour sur investissement qui est direct. Et déjà qu'ils sont en difficulté financière de base, ça en rajoute. Passer en bio, ça a quand même un certain coût. On s'y retrouve au fur et à mesure des années, notamment en changeant les pratiques et en faisant beaucoup plus de ventes en direct, beaucoup plus de transformations sur la ferme. Mais ça nécessite un changement énorme pour les producteurs qui déjà font des semaines à plus de 70 heures. Donc en plus, rajouter ça à un changement structurel important sur toute leur ferme, il y a besoin derrière qu'il y ait un soutien politique fort. Et ce soutien politique, pour l'instant, il n'est pas là. On l'a vu à la crise paysanne qu'il y a eu en janvier dernier. Les mesures qu'on suivit, c'était plus des solutions pour l'agriculture intensive et industrielle que vraiment pour l'agriculture paysanne et bio.
Je voulais revenir tout à l'heure, tu parlais d'agriculture extensive en opposition à l'agriculture intensive. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de ce que c'est qu'une agriculture extensive ?
L'agriculture extensive, c'est une agriculture où justement il y a beaucoup moins d'animaux sur la ferme. Et aussi en termes de production agricole, il y a une production qui est beaucoup plus faible. Il y a tout ce qui est attrait aussi à l'élevage qui est hors sol ou pas, les cultures qui sont hors sol. Donc par exemple, en conventionnel, on peut laisser les bêtes dans l'étable toute leur durée de vie, ce qui n'est pas le cas dans une agriculture extensive. Les bêtes vont plus souvent dehors. Extensive également, pour nourrir les bêtes, c'est en majorité produit aussi sur la ferme, ce qui n'est pas le cas en intensif où c'est du grain, du soja, des tourteaux de soja ou autres qui sont produits ailleurs.
Festival alimentaire. Écrivez TERRE, T-E-2-R-E, les enjeux de l'alimentation durable et solidaire, avec Mélanie Olivier, chargée d'éducation à Échangeons le Monde, et Camille Danel, chargée de communication à la Biocoop Le Grenier à Gap, sur fréquence Mistral.
En tant que commerce, est-ce que c'est facile de se positionner sur l'alimentation durable ? Comment est-ce que ça se passe pour vous, en fait, en tant que commerce, pour se positionner là-dessus ?
Le choix qui a été fait par Artisans du Monde depuis 50 ans maintenant, parce qu'on a fêté les 50 ans cette année. En tout cas, historiquement, l'association était positionnée sur les produits plus du Sud et commercialiser les produits du Sud, en lien avec les producteurs de façon le plus directe possible. Mais je pense que c'est là où c'est intéressant de remettre en perspective, comme avec le festival alimentaire, en se disant que c'est pas parce que ça vient du Sud que ça a forcément un impact et social et environnemental plus important que l'agriculture locale, quelle qu'elle soit. Et voilà, après, je pense que... Enfin, nous, en tout cas, on s'est positionné en tant que commerce sur une diversité de produits alimentaires. Et après, c'est le choix à chaque consommateur de voir là où il a ses préférences. Mais en tout cas, nous, on met en avant ces faibles impacts et sociaux et environnementaux. Et je voulais rebondir sur ce que disait Camille tout à l'heure. Peut-être que c'est là où il y a une complémentarité en fait, entre le bio et le commerce équitable. En fait, le commerce équitable, il est en train de prendre un essor assez important en France aussi, et en appui aux producteurs locaux avec les mêmes principes que ce qu'il y a au niveau relations nord-sud.
Je voulais juste faire un petit aparté. Tu parlais de Artisans du Monde. Je crois qu'on ne l'a pas défini, mais en fait, Échangeons le Monde à Gap, c'est une fusion, si je puis dire, entre cette association Artisans du Monde et l'ASPAL.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On fait partie de la Fédération Artisans du Monde, donc du réseau de boutiques Artisans du Monde qui est un petit peu partout en France, et de cette association qui est née dans le Champsaur, l'ASPAL, donc l'Association de Solidarité pour les Peuples d'Amérique Latine. Et via cette association, on vend un peu plus d'artisanat issu d'Amérique latine.
Et toi, Camille, comment ça se passe à la Biocoop ?
Nous, par exemple, le fruit qu'on vend le plus, c'est la banane. Et la banane, bah, ça reste un fruit exotique et ça reste quand même assez controversé. Parce que bah, même si nous, les bananes, c'est issu de République dominicaine et du Congo, et du coup, c'est issu de productions qui sont certifiées commerce équitable et bio, et bien vu les quantités énormes que nous vendons et que l'ensemble du réseau Biocoop vend, et bien c'est difficile de se faire fournir par des petites productions coopérative, alors que ça, quand même, c'est la base dans le commerce équitable, c'est-à-dire de travailler avec des groupements de producteurs indépendants qui sont organisés en coopérative. C'est quand même complexe pour nous d'y arriver. Se pose aussi cette question, certains de mes collègues se la posent, est-ce qu'on devrait continuer à vendre des bananes ? Idem, nous vendons des avocats. Alors, d'après la charte Biocoop, donc on suit un cahier des charges qui est quand même très exigeant là-dessus, les avocats qu'on vend ne viennent pas d'Amérique latine, justement parce qu'on privilégie l'origine la plus proche. Donc pendant tout un temps, ces avocats venaient d'Espagne. Mais en Espagne, c'est un peu le même sujet que sur le film « L'or bleu, l'or vert ». C'est que l'Espagne, depuis plusieurs années, subit des grosses crises de sécheresse. Et l'avocat fait partie du problème parce que l'avocat, c'est une culture qui est extrêmement gourmande en eau, comme c'est le cas au Chili. Et donc là, on s'oriente vers une production d'avocats issus de l'agroforesterie, donc beaucoup moins gourmande en eau, parce que des plus petites productions qui viendraient d'Afrique, du Congo, donc beaucoup plus loin. Donc là, se posent les questions de est-ce qu'il vaut mieux un produit qui vient de loin, mais qui est meilleur en termes d'impact environnemental, ou plutôt un produit qui vient de plus proche mais qui est du coup beaucoup plus gourmand en termes d'eau, de sécheresse et du coup de CO2. Et en plus, il y a la viande là-dedans. Nous, au grenier, on a deux boucheries qui sont importantes et on a aussi un service à la coupe qui est important avec beaucoup de fromage, avec beaucoup de spécialités fromagères du coin. Donc ça, c'est aussi lié à l'élevage et à la consommation de viande. Parce que je ne vous apprends rien, mais pour avoir du fromage, il faut que les bêtes elles aient des petits. Et les petits, ensuite, si ce n'est pas des femelles, ça part à l'abattoir. Et ensuite, la viande est consommée. Donc, c'est lié en tout cas à la consommation de viande. Et c'est des sujets qui nous animent. Et nos éleveurs ont quand même beaucoup de difficultés à trouver derrière des débouchés à leur viande. Donc, on est toujours sur ces mêmes sujets. Comment transformer l'agriculture et comment avoir une agriculture plus résiliente, à la fois au changement climatique, mais aussi aux enjeux sociaux ici et ailleurs.
Avant de faire une petite pause pour revenir sur la diffusion de Bienveillance Paysanne le jeudi 14 novembre à la Biocoop, Camille, est-ce qu'il y aura des animations, des activités prévues autour de cette diffusion ? Est-ce qu'il y aura des choses de prévues autour de ça ?
Oui, on prévoit l'intervention de producteurs. Des producteurs locaux qui sont en polyculture. Donc on attend là les réponses pour savoir qui pourra venir pour intervenir pendant la diffusion.
Et pour être précis, à quelle heure se fera cette diffusion à la Biocoop ?
Alors ça sera à 19h et ça sera dans les anciens locaux du magasin Biocoop Le Grenier rue Carnot, donc 13 rue Carnot à Gap.
Et donc, pour aller voir le film Bienveillance Paysanne à la Biocoop rue Carnot, on vient de le dire, à Gap. Et je vous propose une deuxième petite pause musicale avant de conclure cette émission.
No hell God's only sky.
C'était John Lennon avec son incontournable Imagine. Je ne doute pas que chacun des auditrices et auditeurs l'a reconnu. Et nous revoilà dans cette émission spéciale sur le Festival Alimentaire. Je suis toujours en compagnie de Mélanie Olivier, chargée d'éducation Échangeons le Monde à Gap, et de Camille Danel de la Biocoop Le Grenier à Gap également. Mélanie et Camille, je voulais vous demander comment est-ce que vous percevez le festival ? Quel est votre avis sur le Festival Alimentaire ? Est-ce que pour vous, les documentaires sont un support intéressant pour sensibiliser ? Est-ce qu'il y a autre chose derrière ?
Ça me fait repenser à la question de tout à l'heure de quels étaient les critères de sélection des films. Et il y en a un en particulier qui est de montrer des alternatives. Et personnellement, mon avis, en tout cas sur les deux années que j'ai pu vivre de festival, c'est que c'est compliqué de trouver des films où, aux grosses problématiques, on ait des grosses alternatives en face. On est souvent posé devant quelque chose de, malgré tout, assez sombre, et ça a quelque chose d'un peu rageant, d'un peu dépitant. Et en même temps, ce que je me dis, c'est que les films, ils sont là pour introduire. Et après, en fait, libre à chacun et à chaque organisateur, chaque collectif, chaque groupe de public de prendre en main en fait ces thématiques et de se dire, ok, localement, comment on peut faire pour, une fois qu'on a un petit peu plus conscience des enjeux, qu'est-ce qui est entre nos mains pour faire changer les choses, quoi. Donc je pense que c'est quand même une belle opportunité, ce festival, pour que les gens se rencontrent
autour de ces thématiques.
Autour de ces thématiques, oui.
Tout à fait. Camille ?
Moi, je trouve qu'à chaque fois, ça permet d'apprendre plein de choses sur plein de thématiques super différentes, parce que mine de rien, il y a beaucoup de la géopolitique dans tous ces sujets. On voyage beaucoup grâce à ces films. Moi, ça fait depuis 2016 que je vois des films du Festival Alimentaire. Et à chaque fois, je suis toujours étonnée par la qualité des films. Je les trouve vraiment top. Et ça amène plein de réflexions, plein de débats. OK, ça a un petit côté forcément un peu dur de voir le côté sombre de l'impact de l'alimentation, surtout industrielle, hein, enfin la production industrielle pour notre alimentation aujourd'hui. Mais les alternatives donnent de l'espoir et surtout, ça donne un regard, nous, sur le pouvoir qu'on peut avoir en tant que citoyen. On est quand même dans un des pays, une des plus grandes puissances en termes agricoles et au niveau de l'Europe. Il y a énormément de choses à faire au niveau de la politique agricole commune. Et de voir les impacts que ça peut avoir, c'est super riche. Après, l'enjeu, je pense, du festival, c'est de plus en plus le cas, c'est de l'ouvrir à d'autres publics et pas que à des personnes qui sont forcément sensibilisées à ces sujets. Je sais que Mélanie fait un super boulot là-dessus. À voir les années prochaines, comment essayer d'encore plus toucher des personnes qui n'ont pas forcément d'intérêt premier sur ce style de film.
Ça peut être plutôt un public de convaincus, en fait, qui vient voir ces films-là. Et à ce propos-là, Mélanie, justement, toi, tu as une mission d'éducation auprès des publics. Il y aura des diffusions, en fait, auprès des scolaires aussi dans le cadre du festival alimentaire.
Oui, il y en a un petit peu de partout dans les Hautes-Alpes aussi. Du coup, il y en a une partie à Gap où c'est nous qui... Enfin, où on va en animer une partie. C'est un peu la base de notre mission d'éducation. En fait, ça recoupe complètement les valeurs du festival alimentaire. C'est de se dire qu'on peut amener quelques éléments de sensibilisation. Et là, c'est super chouette d'avoir un public, du coup, qui a plein de... et d'historique et de points de vue différents. Et nous, on aborde les séances essentiellement par le jeu, de façon ludique, ou en animant des débats. Mais en tout cas, faire que... En fait, ce soit le groupe par lui-même qui prenne conscience de certaines problématiques et qui prenne conscience de ses potentiels d'action, quoi. C'est pas une animation descendante où on amène quelque chose de théorique. Et c'est là où ça recoupe complètement le festival alimentaire dans ses valeurs.
Et tu viens de le dire, c'est parfois un peu compliqué de convaincre les publics adultes. J'ai l'impression, en tout cas, que ce qui rend ces choses-là compliquées, c'est qu'on a la sensation que c'est assez inaccessible d'acheter durable et solidaire. On a toujours l'impression que ça va être très cher dans des endroits qu'on ne connaît pas. Voilà, on a une sensation que c'est inaccessible. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre toutes les deux, Mélanie et Camille, sur cette question-là ? Qu'est-ce qui serait votre réponse à ça ?
Eh bien, par rapport à l'image prix, parce que c'est vraiment ça, c'est pas les prix en tant que tels, c'est l'image qu'on en a. C'est vrai que je sais que l'agriculture, enfin les produits issus de l'agriculture bio et du commerce équitable, souvent ont une image prix qui est fausse. Ce sont des prix qui paraissent souvent beaucoup plus élevés. Ce qui coûte cher, en fait, c'est surtout les produits qui sont transformés. Parce qu'en fait, on a une vision biaisée des prix de l'alimentation. On les compare par rapport à des produits qui sont issus de la production agro-industrielle. Il y a eu des énormes économies d'échelle faites, une pressurisation des producteurs de base. Donc, on ne se rend pas compte, mais les produits qu'on achète, ce n'est pas du tout le vrai prix. En fait, dans tout ce qu'on achète, si ce n'est pas cher, il faut se dire qui est-ce qui paye le vrai prix ? Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui le paye. Et souvent, c'est le producteur. Donc, en achetant des produits bio et des produits issus du commerce équitable, là, forcément, on se rend compte du vrai prix, et qui n'est pas du tout le même. Mais au final, tous les prix, derrière, il y a quelqu'un qui le paye. Le producteur qui est en difficulté, aujourd'hui, en tout cas en France, les producteurs en difficulté, mais ils vivent que grâce aux subventions. Et les subventions, c'est de l'argent public, et c'est nous qui les payons. Donc, en fait, tout est lié là-dessus. Principalement du bio. Peut-être Mélanie pourra parler des produits issus du commerce équitable. Voilà. Ce qu'il faut aussi, c'est si on souhaite passer en bio, c'est changer ses habitudes de consommation, plus cuisiner, manger forcément moins carné et bien sûr moins transformé. Après, c'est difficile. C'est pas surtout changer de façon de faire, c'est difficile, surtout quand on a été élevé d'une autre façon. Culturellement, c'est dur. Mais petit à petit, ils se rendent compte, rien que passer le pas et acheter des pâtes, du riz, ils se rendent compte que le prix, c'est pas si déconnecté et qu'on a bien plus à y gagner en termes de la santé et puis en termes d'impact environnemental.
Et toi, Mélanie ?
Peut-être en prenant l'exemple du cacao, parce que c'est un exemple qu'on est en train d'étudier au niveau d'Artisans du Monde un peu plus précisément cette année. Effectivement, sur cette histoire de coûts cachés qu'on ne prend pas en compte, il y a une étude du BASIC qui disait ça, que en fait, sur 1 euro de chocolat, de cacao produit en Côte d'Ivoire, il y a 70 centimes de coûts cachés qui sont pris en charge par le producteur. Donc c'est quasiment la totalité de ce qui est gagné, qui est en fait un coût pour la société en Côte d'Ivoire. On peut se permettre de payer un peu plus les producteurs, étant donné que sur la filière conventionnelle classique, avec tous les intermédiaires et avec toutes les marges qui sont prises par chaque intermédiaire, le pourcentage qui est reversé aux producteurs, il n'est pas si énorme que ça. Donc,
Festival alimentaire. Écrivez Terre, T-E-2-R-E, comme notre planète. du 15 octobre au 30 novembre, partout en France.
Toutes les deux, ce que vous auriez envie de dire peut-être aux auditrices et auditeurs, c'est d'essayer de réfléchir au prix qui est mis pendant leur consommation. Je pense aux personnes qui ont peut-être, on entend qu'il y a de plus en plus de difficultés financières qui se font avec l'inflation. Est-ce que ces personnes-là, c'est possible, vous pensez, de leur demander cet effort-là aussi? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est aux personnes qui peuvent se le permettre de faire cet effort-là? Comment est-ce que vous voyez les choses?
On parle de plus en plus de sécurité sociale de l'alimentation. C'est un sujet qui est en ce moment au cœur de plein de discussions d'associations, notamment dans les Hautes-Alpes, où il y a des initiatives qui se font là-dessus. Donc c'est d'avoir, comme on a une caisse de sécurité sociale, d'en avoir une dédiée à l'alimentation, ceux qui peuvent mettre plus. Et derrière, tout le monde, tous les participants à cette caisse reçoivent le même argent à dépenser dans certaines boutiques, certains lieux dédiés à l'alimentation durable qu'ils ont eux-mêmes choisis. Il y aura une initiative qui se fera dans le Guy S3, si je ne m'abuse, et à l'Aragne. Voilà, c'est en cours et c'est des expérimentations, on espère, qui auront lieu aussi dans le Gapensé. Et comme je disais, on est très conscient que c'est difficile de changer de paradigme. Depuis le début du siècle, qu'on a vraiment une autre façon de consommer. Avant, la part de l'alimentation, ça représentait 3/4 du budget d'un ménage et ça a diminué au fur et à mesure. Donc le fait qu'il y ait de l'inflation aujourd'hui, surtout sur les produits alimentaires, ça questionne beaucoup sur la place que prend l'alimentation. En fait, aujourd'hui, ce qui prend le plus de place, c'est les abonnements en tout genre auxquels on est tous coincés. En fait, on est victime aujourd'hui de notre consommation et on est victime aussi de notre consommation alimentaire sans connaître en fait les vrais enjeux et les vrais leviers qu'il peut y avoir derrière pour changer. Donc, à voir comment changer les choses, ces petites initiatives de sécurité sociale de l'alimentation, en effet, c'est intéressant. Mais à voir ce qui peut se faire d'un point de vue plus global au niveau des pouvoirs publics, ce qui peut être envisagé.
Mélanie, est-ce que tu aurais envie de rebondir à ce que vient de dire Camille ?
Peut-être pour boucler la boucle, par rapport à cette histoire de sécurité sociale de l'alimentation, c'est possible, mais c'est encore en cours d'organisation, qu'on fasse que suite à la soirée du 21 novembre, où on projettera demain la vallée, avec l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire, il y a une petite introduction à où est-ce que ça en est, en fait, cette histoire de sécurité sociale de l'alimentation sur les Hautes-Alpes. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent venir et voir le film et participer à cette discussion. Je pense qu'on en mettra un peu plus sur l'événement Facebook, sur la page Facebook du Festival Alimentaire 05. Donc, allez voir la page Facebook et puis vous en saurez plus.
Fréquence Mistral et le Festival Alimentaire. Une émission spéciale autour des enjeux de l'alimentation durable et solidaire.
J'avais envie de revenir sur le Festival Alimentaire, justement, et vous demander si vous aviez un coup de cœur sur les films qui vont être diffusés. Mélanie, est-ce que tu aurais un coup de cœur, par exemple ?
Je crois que j'en ai deux, mais moi, c'est vraiment les belles images en lien avec des thématiques qui me touchent, qui me tiennent à cœur. Et du coup, il y a la dernière graine, où c'est vraiment des très belles images, des très beaux témoignages en lien avec cette histoire de semences qui me paraît en fait vitale parce que c'est la source de tout le reste, en fait, de toute l'agriculture après. Et aussi, de par les enseignements qu'on peut tirer de nous en tant qu'Européens, de systèmes africains qui sont super résilients, en fait. Et le deuxième, c'est Jusqu'à la fin du monde aussi. Je crois peut-être parce qu'il traverse vraiment le monde et on voit des images de partout autour de l'aquaculture et des très belles images aussi. Donc voilà, mes deux pépites de l'année.
Et toi Camille, est-ce que tu as un coup de cœur ?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé la théorie du boxeur, notamment par les images aussi que j'ai trouvées très belles, les questions que ça soulève et les discussions très riches. Avec les agriculteurs et agricultrices du coin de la Drôme. Et c'est des questions qui sont pertinentes aussi chez nous, c'est nos voisins. Et voilà, c'est hyper intéressant sur la résilience alimentaire.
Je voudrais revenir sur Échangeons le Monde. Mélanie, tout à l'heure, on expliquait que c'est une boutique associative. Et je crois que l'association recherche des bénévoles.
Oui, toujours. Effectivement. Je pense comme beaucoup d'associations, on a plein d'activités, on fait plein de choses. Ce que je disais en début d'émission, on fait de la vente, de l'éducation, du plaidoyer. Et en fait, toute la boutique est tenue par des bénévoles toute la semaine. Puis après, il y a les animations. Moi, je n'y vais pas toute seule. On y va à plusieurs membres de la commission éducation. Après, il y a tout le rôle de lien aussi avec les associations. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts. Et voilà, vous êtes les bienvenus si jamais vous... C'est vrai qu'on a tendance à s'orienter un peu plus vers les jeunes retraités, parce que c'est ceux potentiellement, en tout cas, qui ont un peu plus de temps en semaine. Mais toute personne est la bienvenue dans l'association et peut s'investir à hauteur de ce qu'il a envie, quoi.
Et ben c'est noté, entendu et diffusé. Camille, est-ce que tu aurais un mot de la fin que tu aurais envie de rajouter pour conclure ?
Eh bien, n'hésitez pas à aller voir les différents films dans plein de lieux. Ça permet aussi de rencontrer des autres personnes, s'enrichir après avec les débats. Et puis, surtout, de s'ouvrir l'esprit et même d'apprendre, de découvrir plein de sujets. Donc, je vous le conseille. Les images sont top. Ça permet de voyager et de débattre, de discuter. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Il y en a pour tous les goûts.
Et donc, on le rappelle, le festival alimentaire commencera le 15 octobre et se terminera le 30 novembre. Il y aura plein de diffusions partout dans les Hautes-Alpes et même dans la région de manière générale, en France, etc. Voilà, beaucoup, beaucoup de diffusions. Les auditrices et auditeurs peuvent retrouver toutes les informations sur le site alimentaire.org. Donc, alimentere.org pour le site internet. Et puis, pour les Hautes-Alpes, sur la page Facebook Alimentaire 05. Voilà. Merci Mélanie, merci Camille d'être venue échanger avec nous ici autour de ce festival et autour de toutes ces questions-là de l'alimentation durable et solidaire. Merci à vous deux.
Merci.
Tout ce qui me fait peur, c'est l'avenir, parce que j'ai peur de la guerre, premièrement, parce que je sais pas, peut-être que demain la Terre pourrait exploser avec quelques bombes H, trucs comme ça. Et puis du mariage aussi, j'ai un peu peur.
Primo, l'amour c'est la lumière, et s'il fait nuit un peu parfois, c'est un clignement de paupières, comme le phare des yeux d'Elsa, un sentiment des profondeurs, explorant ce que les abysses cachent. Nous on paye vite cher les erreurs, des accidents de bathyscaphe, secondo la nature des choses, trouve toujours son chemin, faut se battre jusqu'à l'ecchymose, mais au-delà son sens est vain, parfois il en sort des chefs-d'œuvre, mais Mozart en mourra à Vienne, on paye cher le prix de l'épreuve, à moins que le boomerang vienne. On ira voir au Portugal les vagues géantes du Nazaré, comment les bébés tortues gagnent, le rivage des plages azurées, je t'apprendrai à lire les souches, gène qui cicatrise, comment apercevoir du rouge dans le bleu de la danse de Matisse. Je t'expliquerai à Dame Kevitz à travers les livres de la Zorte, et pourquoi ces deux types ont le nom des artères que tu portes. Voler des fruits sucrés dans les jardins qui sont suspendus dans Babylone, tous mes secrets de citadin juste parce que t'es mon baby love. Tertieux, affirme-toi au-delà de ces amantés, parce que parfois tu finiras démuni et désargenté. Garde ta philosophie intègre et dans l'adversité sois toi, même si tu donnes du sucre au cerbère, tu ne le domestiqueras pas. Quarto, laisse de la place au vide, que puisse venir l'extraordinaire. Le plus sage n'est pas d'accomplir, mais de gérer le rien à faire. Réfléchis avant de rendre pire, te fatiguer en cataclysme, d'absolument vouloir remplir le tonneau des Danaïdes. On ira place de la rotonde, choisir un tram qui parcourt Strasse. Je t'expliquerai pourquoi la Joconde et l'allégorie du temps qui passe. Les graffeurs du Palikao qui partent avant que les milices viennent. Et puis les Marinaro du carnaval de Villingen, le groupe Home New York, Dance, le crunk, le break et le popin, la déduction de Sherlock Holmes et les rêves de Mary Poppins. Je t'emmènerai dans une vague pipeline avec mes amis surfeurs d'Andaï. On a tellement de choses à lire, de Marc Aurèle à Simone Weil. Quinto, existe-t-il des erreurs qui ne méritent pas de pardon? Celui qui produit la colère boit la plupart de son poison. De toute façon, parfois l'existence. Tu crois ces gens qui aiment trop les drames, mais seule la vie a de l'importance. Comme dirait les Mondo Chawan. Sexto, le destin, c'est pas que la chance, mais surtout beaucoup de choix. Et tu peux prendre de l'avance en marchant loin de dans toi. Être indépendant de pensée sans rejoindre les groupes militaires. Souvent les gens meurent écrasés sous la statue de ceux qu'ils vénèrent. On ira nager sous la glace des eaux turquoises de l'Antarctique, sans s'occuper du temps qui passe pour revoir tout Miyazaki. Les rumeries de Bukanka, les bonbons piments de Sainte-Anne. On voguera à bord d'un canot par-dessus la fosse des Mariannes. Et si une nuit tu dormais mal, on fera les inuits en traîneau jusqu'au trait d'aurore boréale. Tu t'endormiras à Tremso, aux îles Kerguelen, boire un shot pendant que je te réchauffe dans mes bras et que t'observes les baleines à bosse qui crachent de l'air autour de toi. 7. Les saboyés, ceux qui blessent à travers leurs mauvais reux. Les hyènes s'accroupissent et se taisent lorsque le lion se tourne vers eux. Il y a les uns qui ne font rien à part de mal parler des autres, et ceux qui ne parlent pas des uns mais dans le silence font les choses. Octavo, laisse ton ego évoluer de façon tendre. Parfois les choses sont si simples qu'on met toute notre vie à le comprendre. Sois tolérant avec ce que sont ces conseils à ton image, car tous les non-sages sont insensés. Mais existe-t-il vraiment des sages ?